أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, ce que nous avons décidé, c'est effectivement de parler de l'essentiel, et en particulier pendant le mois du Ramadan, de parler de ce qui va concerner nos responsabilités personnelles. Alors, parmi les éléments de la responsabilité personnelle, en plein mois du Ramadan, mais dans la vie de tous les jours, et je vais utiliser le fait que nous soyons pendant le mois du Ramadan, mais non pas pour fermer la réflexion sur ce mois, mais l'ouvrir sur tout le reste de l'année. Puisque ce que nous savons, c'est que le mois du Ramadan, c'est une madrasa, c'est une école pour les 11 mois qui suivent, pour pouvoir se préparer à vivre tous les autres mois à l'image de ce mois particulier. Et parmi les choses qui nous touchent tous, et vis-à-vis desquelles nous avons un grand effort à faire, personnel, mais également dans notre communauté, mais également par rapport aux gens avec lesquels nous vivons, c'est notre rapport à notre langue, notre rapport aux mots, notre rapport à notre façon de nous exprimer. Vous savez que le prophète, il nous a dit, il nous a fait comprendre que quand on se rapproche d'Allah SWT, il faut se rapprocher de lui. Et quand on se rapproche de lui, on se rapproche de Dieu. Et il y a deux façons toujours de se rapprocher de ceux qu'on aime, puisque notre relation à Dieu, c'est l'amour. C'est non seulement d'écouter ce qu'ils nous disent, mais d'écouter la façon dont ils nous disent, non seulement de savoir comment ils ont vécu, mais d'apprendre ce qui derrière ce qu'ils nous montrent motive ce qu'ils sont devenus, comme le prophète Azzatussalam et tous les prophètes auparavant. Et c'est vrai que quand vous lisez le Coran, Shahru Ramadan wa Shahru Qur'an, c'est-à-dire c'est le mois du Coran, vous le savez, c'est le mois dans lequel est descendu ce Coran du ciel le plus élevé au ciel le plus bas. C'est pour nous un moment particulier. Alors beaucoup d'entre nous, on sait qu'on doit lire beaucoup plus le Coran. Et pour tous ceux d'entre vous qui maîtrisent un minimum de la langue arabe, le rendez-vous avec le Coran doit être journalier à plus forte raison pendant le mois du Ramadan. Et il faudrait se tenir à cette règle simple de dégager un temps de disponibilité de cœur et d'intelligence et de conscience pour pouvoir lire un 1/30 du Coran par jour. Ça, c'est une dimension du rapprochement. Mais qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire que lire le Coran. Alors pour ceux qui peuvent le lire en arabe, ala barakatillah bien sûr, et pour ceux qui ne le peuvent pas, c'est d'apprendre le minimum d'arabe nécessaire, ne serait-ce que dans l'identification des lettres, puis ensuite des tilawad, pour pouvoir le lire en arabe au minimum. Vous ne serez peut-être pas arabophone, mais il faut que vous deveniez coranophone, au minimum. Au minimum pour pouvoir avoir accès à ce que, quand vous l'entendez en arabe, que vous sachiez ce qui se dit. Mais pour ce qui est de maintenant, si vous ne pouvez pas le faire en arabe, faites-le en français au minimum. Mais faites-le en français ou en arabe, non pas simplement pour dire « bon ben j'ai lu un juz, un 1/30 ou un hizb, un 1/60 », mais c'est aussi pour méditer. Allah SWT est un éducateur. Vous savez, en langue française, il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans les traductions. Elles ne sont pas toujours fausses, mais elles sont inexactes, ça ne rend pas bien le sens. Quand par exemple vous avez « huwa rabbul alamin », on dit il est le Seigneur des mondes, et en fait c'est pas juste, parce que la racine du mot Rabb, il y a la dimension de l'éducateur, et dans éducateur c'est celui qui donne forme. Et vous remarquerez d'ailleurs que quand on dit il est un, on dit Allah, Mais quand on met la relation d'Allah au monde, on dit Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. En d'autres termes, il est l'être un qui donne forme, qui éduque. Et il y a cette dimension de tarbiyya qui a la même racine, qui est, le même, qui est de la même orientation dans la compréhension du terme. Ce n'est pas Seigneur, c'est plus dans la relation directe qu'il a avec ce qu'il a créé pour donner forme. Et quand on est dans la relation avec le Coran, quand on lit ce que Allah SWT, Rabbul Alamin a révélé, ce qu'il nous dit à nous, la relation qu'il a avec nous, c'est la relation d'un éducateur. Et vous le savez bien, un éducateur est autant éducateur par ce qu'il dit que par la façon dont il le dit. Toujours. D'ailleurs, le meilleur éducateur, c'est celui qui a compris que la façon avec laquelle il dit les choses, ça fait partie de ce qu'il dit. Ça fait partie du contenu. Et Allah SWT, il nous parle d'une certaine façon. Il n'y a rien dans l'exposé de la révélation qui nous fait venir à Dieu d'agressif. Il n'y a rien de heurtant. C'est toujours des invitations. Mais c'est des invitations qui sont tantôt je vous donne un ordre, tantôt je vous pose une question, tantôt je réveille votre conscience. Tout de suite vous commencez le Coran, après la liminaire, après le Fatiha, vous avez Alif Lam Mim. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je t'invite. Alors c'est Allah qui nous fait comprendre. Je t'invite à venir à moi en t'imposant l'humilité de ne pas comprendre ce que je commence par te dire. Le premier acte d'entrée dans Sourat Al-Baqara, c'est trois lettres qui appellent ta conscience et rappellent à ta raison que tu comprends pas. Alors quand Allah parle comme ça, il nous parle d'une certaine façon. Il réveille la conscience, humilie la raison. Il élève le cœur, convoque la raison. Il parle du cœur et impose à ta raison. Et parfois, il te dit ce que tu dois dire. Ça met un nain ou un porna. Tu discutes pas. Là, il n'y a pas, mais j'ai un haïwana, tu appliques. Et puis un autre, il dit il y a ulul albab, ou vous qui êtes doué d'intelligence. Et vous apercevez qu'il vous parle en convoquant tous les moments, toutes les dimensions de votre être. Alors, ce mental-là a une certaine façon de parler aux créatures. Mais ça, il faut l'étudier. Il faut l'étudier parce que c'est une certaine façon de ne jamais utiliser l'agressivité et la violence pour dire des choses importantes. Souvent la douceur, souvent la question, parfois la non-compréhension, parfois l'humiliation même de la raison au sens noble du terme. Produire un esprit humble. Et puis vous avez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui et sur tous les prophètes qui l'ont précédé. Eh bien, lui aussi, il a une certaine façon de parler. Il ne blesse pas. Parfois, il impose et parfois, il peut être sévère. Mais toujours avec une certaine tonalité, toujours avec une certaine maîtrise. En fait, plus vous étudiez la vie du prophète à ce saint, plus vous comprenez que plus vous êtes avec Dieu, plus vous maîtrisez votre langue. Plus vous étudiez la vie du prophète à ce saint, plus vous comprenez qu'à des moments, il y a un tel degré de maîtrise de la langue que ce n'est que le signe de la protection avec le Créateur. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que vous voyez qu'il est proche du plus grand quand il maîtrise le plus petit. Il est proche du plus grand de tout ce qu'il y a, que tu ne peux même pas concevoir, juste quand tu vois comme il maîtrise sa langue. Ou des gens vont insulter, ils n'insultent pas. Même dans la plaisanterie. Vous avez remarqué comment parfois nous dans la plaisanterie, puisqu'on plaisante, on plaisante, n'est-ce pas ? Ben quand on plaisante, notre envie de faire rire notre interlocuteur est telle, ou de l'amener à être en ce qu'on appelle en psychologie en empathie avec nous, c'est-à-dire qu'il soit, qu'il comprenne bien ce qu'on veut dire, que parfois on l'invite à la plaisanterie et puis tout à coup il se glisse un petit mensonge. Comme si en plaisantant un mensonge était forcément, puisqu'on plaisante, moins important qu'un mensonge dans la vérité. Ce qui rapportait du... Et c'est normal, c'est comme ça. Et on va le faire, ces erreurs, on va les faire. Ça va nous arriver toujours. On va plaisanter et on va glisser. Un petit mensonge. Ça m'est arrivé récemment, là. J'étais sur la route pour arriver à une ville. On était parti en retard, mais on était en route. Et le frère, il panique au téléphone. Il me dit, c'est pas possible, il faut que tu arrives. Il y a du monde qui attend. Et j'étais au téléphone comme ça, puis on plaisante, et je lui dis quoi ? Je lui dis, je suis pas encore parti. Quoi ? Je plaisantais, et j'ai menti. J'arrête le téléphone après, puis j'ai le téléphone dans la main, puis je réfléchis, je dis, subhanallah, c'est petit, mais si tu y réfléchis, ça y est, t'as menti, c'est rien. Mais plus tu te rapproches de la vérité, al-haq, Allah, plus tu t'es conscient de ces petites choses. Eh bien, le prophète, rassoul salam, faisait sourire et rire son entourage, mais il ne mentait jamais. Ne mentait pas, même pour faire rire. Ce n'est pas pour qu'on cesse de rire, c'est pour qu'on maîtrise sa langue. C'est ça l'exemple. Il est le meilleur exemple, pas pour qu'on devienne des sinistrés, parce qu'il y en a qui ont tout compris à l'envers. Ils voient ça, puis ils se disent, alors, je suis le prophète, rassoul salam, et ils confondent la proximité avec Dieu avec le sérieux. Tu as l'impression que plus tu t'approches de Dieu, moins tu ris, au sens où tu ris plus du tout. C'est trop sérieux pour rire. Non, le prophète, rassoul salam, il souriait, et il admettait, et il riait, au sens où il plaisantait, et il admettait qu'on plaisante. Et c'est ça la vie aussi. C'est faire et se sentir bien, mais pas contre le bien. Vous comprenez la formule ? Se sentir bien, mais pas contre le bien. Et c'est la vie, et il faut le vivre. Et les gens plaisantaient avec lui. Quand il dit à cette vieille femme, à une vieille femme, il dit, mais aucune vieille femme n'entre au paradis. Hein ? Vieille femme n'entre pas au paradis, c'est-à-dire que si tu vis, vous voyez, ça vous touche aussi. Eh bien, oui, parce que dans le verset, ceux qui entrent au paradis et celles qui iront au paradis sont éternellement jeunes. Ça vous rassure. Alhamdoulilah. Eh bien, le prophète, sallam, c'était cet exemple-là. Puis avec une chose aussi tout à fait particulière. Cette légèreté sans mensonge et cette force de la répétition. Il est dit, selon la tradition, que le prophète, sallam, parfois répétait deux, voire trois fois la même chose. Et il allait lentement. Même dans sa façon de dire le Coran, il allait lentement. Parce que plus nous sommes habitués à la vitesse de ce qu'on dit, moins parfois on réfléchit à ce qu'on a entendu. Et lui, il arrête l'attention. Il dit, attends, je suis en train de te dire quelque chose d'important. Et il s'arrête et il le répète pour que ce soit entendu. La première, c'est pour que ton oreille l'entende. La deuxième, c'est pour que ta raison le comprenne. Et la troisième, c'est pour que ton cœur le médite. Un, mon oreille a entendu. Mais des fois, t'entends, t'as pas écouté. La deuxième, c'est pour que ta raison comprenne. Et la troisième, c'est pour que ton cœur le médite. C'est-à-dire, ça veut dire quelque chose. Bien, le prophète, rassoul salam, c'était cette école-là. Et il faut, quand vous revenez à la sunna du prophète, rassoul salam, que vraiment nous comprenions cela. Parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est que nous nous réconcilions avec le sens profond de ce rapport au monde. Nous sommes une communauté, nous disons et nous rappelons, les croyants sont frères, ceux qui portent la foi. Mais ceux qui provoquent le pire des désastres, le vrai cataclysme psychologique dans notre communauté, ce sont les mots. Ce sont des façons que nous avons de nous parler. Ce sont des façons que nous avons de nous insulter. Ce sont des façons que nous avons de considérer que ces choses-là sont faciles. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait, vous faites aujourd'hui des choses qui vous paraissent légères et qui pour nous étaient énormes. Et nous, aujourd'hui, on fait des choses comme ceci. On a une certaine légèreté. Et il faut que nous revenions à une spiritualité profonde qui va être finalement celle qui va nous aider à transformer cette communauté. Ce qui est attendu de nous en étant des musulmans en France, en Europe, ce n'est pas la revendication exemplaire. J'y crois pas à ça. Je crois aujourd'hui fondamentalement à la spiritualité exemplaire. L'exemplarité par la spiritualité m'est vécue jusqu'à ma façon de maîtriser ma langue. En fait, Rasulullah cela m'a dit, celui d'entre vous qui me garantit ce qu'il a entre les deux mâchoires et ce qu'il a entre les deux jambes, je lui garantis le paradis. Ça a été dit ceci quand ? Ça a été dit au 7e siècle, 1424 ans après. Vous regardez l'état du monde et vous vous dites que ce qui fait mal à l'humanité, c'est la gestion de ce qu'ils ont entre les deux mâchoires et entre les deux jambes. À plus forte raison, et chacun d'entre nous ici dans cette salle le sait. Ce qui nous fait le plus mal aujourd'hui, c'est ce qui sort si facilement de nos bouches. C'est l'arrogance, c'est des propos, c'est une certaine façon de penser que... Et puis effectivement, tout le domaine de l'éthique personnelle en matière de rapport à notre propre corps. Cette dimension, pour nous, elle doit être fondamentale. C'est-à-dire qu'on doit vraiment y penser. Qui d'entre nous, prophète Rasulallah qui dit, celui d'entre vous qui me garantit ce qu'il a entre les deux mâchoires. C'est-à-dire qu'il va maîtriser sa langue. Et le compagnon qui pose la question au prophète Hassan, qui dit on va rentrer en enfer à cause de ce qu'on dit, oui, elle a peut-être la première. Alors évidemment, on peut entretenir un discours sur, tu sais, fais attention à l'enfer. On peut, et il y a de cela en islam. Il y a l'idée de, attention, il y a une vie après la vie. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres vies. Maintenant, il ne faut pas que nous développions uniquement une, vous savez, une foi du commerçant, ce que disait l'imam Cheikh Nawawi. Cheikh Nawawi, dans son charh, en particulier des 40 hadiths que vous connaissez, mais plus généralement de Riyad al-Salihin, il revient souvent sur cette notion des différentes étapes de la foi. Iman et Tajr, c'est-à-dire la foi du commerçant, je fais ça pour le paradis. Il y a un degré plus élevé de ça. Il y a toujours un degré plus élevé spirituellement. C'est toujours bien de vouloir la justice, mais il faut vouloir la générosité au-delà de la justice. Oui, Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan, c'est plus encore. La justice, c'est je veux mon droit. Et l'ihsan, c'est je dépasse avec tout mon cœur ce qu'exige ma tête. Ma tête, elle veut la justice. Mon cœur, il peut te donner plus, même sans justice. C'est quelqu'un qui vous a appris quelque chose, vous vous exigez qu'il vous le rende avec votre tête, puis finalement, vous lui l'offrez avec votre cœur. C'est à toi. C'est le prophète, en ce sens, qui rentre victorieux à la Mecque, le visage prosterné sur son cheval. Prosterné. Il gagne et il se prosterne. C'est autre chose que bouche, quand même. Vous savez, il y a des signes qui ne mentent pas. Moi, il y a des signes qui ne mentent pas à des moments donnés quand vous regardez à la télévision la façon dont des gens se déplacent sur la surface de la Terre. La façon dont il y a une arrogance. Président des États-Unis. Mais les États-Unis passeront. Et le président avant les États-Unis même. Cette espèce d'arrogance qu'il y a dans le verbe et dans la stature. Qui fait que les plus grands des leaders, ce sont ceux qui servaient ceux qui le guidaient. Pas ceux qui se montrent comme s'ils étaient sans eux, sans moi, point de salut. Il rentre la tête prosternée en vainqueur. Avec sa tête, il aurait pu appliquer la justice à tous, et Dieu sait s'il y en a qui méritaient un châtiment, plus de 23 années pour certains de persécution. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Vous êtes libres. Allez pas. Ça, c'est le Ihsan. C'est l'excellence au-delà de la justice. Mais pour pouvoir dire ça avec sa bouche, il faut avoir vraiment pris le temps d'éduquer son cœur. Parce que la première attitude naturelle, c'est « Qu'est-ce que tu m'as dit là? Tu m'as insulté? T'en viens ici. » Vous savez quand ça m'est arrivé ça? Hier après-midi, à Paris, dans une conférence comme celle-ci. Il y en a un qui n'était pas content avec un autre, la salle était pleine comme ceci, ils ont commencé à discuter, ils leur ont dit « Qu'est-ce que tu m'as dit toi? » Et elle vient dehors. Et là, il faut rappeler aux gens, et ils disent « Je jeûne, reviens à ton cœur, ça ne répond pas à la violence. » Mais pour que tu te souviennes que tu jeûnes, il faut que ton cœur te dise « Quand je jeûne avec mon corps, je maîtrise ma langue avec mon cœur. » Tiens là, tiens ta langue. Tout ça, c'est une éducation, et quand on le fait avec son cœur, c'est comme si on priait. Vous savez, ce petit moment où vous allez dire quelque chose naturellement parce que quelqu'un vous a agressé, et que vous dites « Bismillah, Rahman, Rahim, Subhanak » et puis vous retenez votre langue, là, vous êtes en train de prier. C'est une prière, c'est une sadaqa. C'est le moment où vous vous retenez. Alors, il ne faut pas qu'on confonde tout. La prière, ce n'est pas les 5 fois, la qu'on fait, puis c'est fini. Je suis en relation de prière avec ma langue. Quelqu'un qui fait du dhikr, tu lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Je prie. Quand tu es avec Dieu, tu pries tout le temps. Là, maintenant, si vous dites dans votre tête « Bismillah » et que votre cœur est lié, c'est une prière. Personne ne le voit, mais lui le sait. Et vous, vous l'oubliez des fois. Ça, cette dimension, c'est ça qui vient de la sirah du prophète, c'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui va déterminer comment on va être les uns avec les autres. C'est par cette relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va déterminer la façon d'être avec les autres. Une dimension fondamentale qui va être cette maîtrise personnelle. Alors j'avais juste une chose à mettre en évidence et qui est aussi importante. Le prophète a dit: le cœur ne devient droit, et ça c'est rapporté dans un long, je vous renvoie à ce texte d'ailleurs, ça a été traduit en français, c'est sans commune mesure, malheureusement c'est sans commune mesure avec le texte arabe de Ihya Ulumuddin dans le passage qui est le dégât des mots. Mais le contenu est là en français, en particulier pour un certain nombre de hadiths qui sont traduits de façon correcte ou de façon large. où Abu Hamed el-Razali fait tout un développement sur cette dimension-là. Et il dit la chose suivante, il rapporte le hadith du prophète Rasulallah qui dit « Le cœur ne devient droit que si la langue est droite. » Et vous apercevez en fait que c'est un cercle vertueux. Vous éduquez votre cœur à dire le bien, et plus vous dites le bien, plus vous éduquez votre cœur à s'habituer au bien. C'est une certaine façon d'entrer dans un cycle positif. Mais le contraire existe aussi. Vous vous habituez à être vulgaire, votre cœur s'habitue à la vulgarité et il vous pousse à continuer à être vulgaire. Quand vous êtes habitué à une certaine façon de parler, cette façon de parler habitue votre cœur à s'y habituer. Oui. Et là, on est mal. Là, il faut venir à Mulhouse d'un dimanche après-midi, puis qu'il y ait un de vos frères qui dit « Stop ! Arrête !» Là, maintenant, il faut se reprendre. Là, maintenant, il faut arrêter le cycle. Là, maintenant, il faut se dire « Je dois mesurer mes mots. » Parce que mesurer mes mots, c'est le miroir de mon cœur. Et que ce cœur-là, il faut qu'il m'aide, lui, en retour, à changer de façon de parler. Celui d'entre vous qui me garantit ce qu'il a entre les deux mâchoires. Et l'autre hadith, finalement la langue est le miroir du cœur. Tu parles comme tu sens. Et quand tu parles mal, tu ne peux pas sentir bien. C'est pas possible. Ou alors tu es un miracle en exercice. Ce qui n'existe pas pour nous, c'est pas possible. Donc tout ce qui va être déterminant, c'est ce travail-là. Qu'est-ce qui est tout à fait étonnant avec la langue ? C'est que ces trois dimensions sur lesquelles on va s'arrêter, puis c'est là où on va voir la profondeur de la spiritualité. La première des choses, vous l'aurez remarqué, sauf en cas d'handicap, parler est la chose qui nous est le plus facile. Ça vient tout de suite, tu parles tout de suite. D'accord ? Dès que tu as une idée, tu peux la dire. Il n'y a pas d'effort à parler. Vous n'êtes pas allé vers un frère ou une sœur qui se met à parler, tu dis, machin, là c'est bien, tu parles. Sauf s'il y a handicap, on est bien d'accord. Et on demande à Allah qu'il aide nos frères qui peuvent avoir à des moments donnés ce type de handicap. Vous savez, c'est très étonnant. Quelqu'un de ma parenté qui disait, Rahimahullah, qui disait, parce qu'il était asthmatique, qui disait, toi tu respires, tu t'en rends même pas compte. Quand vous êtes blessé dans votre respiration, que ça devient un problème, vous rendez compte de ce que c'est que de respirer. Mais tant que tu respires, c'est naturel. Et nous, on est là, on parle, et moi je vous parle. Il y a des moments donnés, tout à coup, sur la route, vous rencontrez quelqu'un qui peut avoir un problème qui est d'ordre psychologique ou un problème d'ordre de la prononciation, de l'énonciation, puis sentir qu'il a de la peine, que parler devient une peine, une douleur, pour des questions psychologiques ou pour des questions. Et là, vous dites Subhanallah. Subhanallah, c'est-à-dire, c'est incroyable comme on oublie même le don de l'essentiel, du simple. Parler, c'est facile, mais c'est pas donné à tout le monde. Et des fois, quand on parle, faut se le dire, ça. Faut se dire Subhanallah. Je suis peut-être pas content de ce que je dis, mais au moins je peux le dire. Alors qu'il y en a tellement aujourd'hui, pour plein de raisons. Ce sont des questions. Vous savez, ça aussi, ce sont des choses qui vous amènent à une humilité par rapport à votre propre langue. Bien, la première des dimensions de parler, c'est quoi ? C'est facile. Ça vient, on n'a pas. C'est pas. Ça ne demande pas un effort particulier, on parle. Donc il y a une dimension de la facilité. La deuxième des choses, c'est que c'est naturel. Ça a une dimension naturelle. Je parle, j'ai une pensée qui se construit, c'est naturel de le dire. C'est humain. Le propre de l'homme est la parole, mais ça n'est pas le propre du seul homme. Et la troisième des dimensions, donc on a un, c'est facile, deux, c'est naturel, et trois, c'est finalement devenu un détail de notre existence. Parler, j'en fais pas un plat. Sauf quand je pense que ce que je dis est important. Donc je parle. Non, je parle. On veut dire, je suis en train de dire une chose importante. Mais c'est un détail, ce n'est pas, on ne pense pas au péché majeur, on ne pense pas aux dimensions supérieures ou prioritaires de nos vies. C'est facile, c'est naturel, c'est un détail. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que dans la maîtrise, ce qui nous est demandé, quand on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on étudie la vie du prophète, aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on comprend que ce qu'il va nous être demandé, c'est de maîtriser quelque chose qui est facile à faire, ça vient tout de suite, on n'y pense même pas, mais parfois on parle avant même d'avoir pensé. Vous avez remarqué qu'il y en a des gens, il y a des gens qui sont comme ça. Les moments, il faut que tu les arrêtes, tu les dis, attends, avant que tu parles, est-ce que tu pourrais penser d'abord ? Parce qu'il y a un petit problème, il y en a qui parlent beaucoup plus vite qu'ils ne pensent. En fait, on parle souvent plus vite qu'on ne pense, des fois il faudrait retenir ça. Des fois, il y en a certains, ils parlent, on se demande encore s'ils pensent, mais enfin, c'est une réalité aussi. Le deuxième des éléments, c'est finalement, ce travail sur le naturel. Toutes les spiritualités, toutes, toutes, sans aucune exception, nous disent une chose qui est très importante, sur laquelle il faut qu'on revienne ici. C'est que tout ce qui est naturel n'est pas forcément bien. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bien. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que tu peux avoir des tentations ou des aspirations, des pulsions naturelles qui ne sont pas positives. Tu peux avoir une pulsion naturelle de vengeance, une pulsion naturelle d'insulte, une pulsion naturelle de violence, une pulsion naturelle d'attraction de choses qui ne sont pas licites. C'est naturel de les avoir, mais ce n'est pas bien de les vivre. Oui. Parce que si tout ce qui était naturel était bien, je veux dire, lui il m'énerve, je lui envoie une gifle, je lui dis, mais j'avais envie. Si tu m'énerves, je fais ce que j'ai envie. Ce n'est pas une société. On ne peut pas avoir une société qui fonctionne à l'envie ou au naturel. Elle fonctionne à la maîtrise. Un être humain, regardez, écoutez-moi bien, un être humain vaut par sa capacité à s'éduquer. Et pour ce qui nous concerne en tant que musulmans, التربية fondamentale, elle vient min Rabb al-Alamin. التربية min Rabb al-Alamin, de l'éducateur suprême. Donc il y a ce lien entre s'auto-éduquer, donc la maîtrise du naturel. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Et ça, c'est aussi un message fondamental par rapport à notre vie dans nos sociétés ici. Parce que dans la vie, dans nos sociétés, souvent l'impression qui est donnée, c'est naturel, donc tu peux le vivre. C'est naturel, donc tu peux le dire. C'est naturel, donc vas-y. Non, ici, le début de la maîtrise du naturel, c'est ce que tu as entre les deux mâchoires. C'est un arbre qui naturellement pourrait s'exprimer vis-à-vis de laquelle tu dois faire un acte de maîtrise. Et puis, c'est aussi une chose très importante, c'est un détail. Mais qu'est-ce que ça veut dire un détail ? Un détail, quand vous écrivez un texte, c'est j'écris un texte, je fais une petite faute. Pour moi, le plus important, c'est le texte. Et si quelqu'un vient me dire, oui, mais là, cette petite faute-là, ce S qui manque, pour ceux que l'orthographe n'intéresse pas, ou cette petite tâche, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, c'est un détail. C'est pas important. Eh bien, regardez bien ce que ça veut dire. Imaginez que le texte, ce soit votre vie, puis que la langue, ce soit ce petit détail-là. Le message de l'islam et de toutes les spiritualités, en particulier tout ce qu'on vient de dire sur la tradition coranique et la tradition du prophète, c'est de nous dire une chose. Ton texte ne sera juste que quand tu feras attention à ce détail. La beauté du tout, elle est à la mesure de ce que si tu sais maîtriser ce détail-là. Ça veut dire en fait, ça dirige notre conscience vers des choses que la conscience ne voit pas. Mais pourquoi ? Parce qu'en étant conscient du détail, on va devenir conscient du tout. Plus tu es conscient de ce que tu dis avec ta langue et tu le maîtrises, plus tu dois te rappeler que ta vie a un sens et qu'un jour, après la mort, il y a une autre vie. C'est dans la gestion du détail qu'on sait si tu as compris les choses importantes de la vie. Mais il y a des gens qui sont tellement négligents que tout devient détail. Tout devient, c'est un détail. Et alors, la prière à son heure, un détail, puisque je prie, si je prie. La façon d'être rigoureux par rapport à certaines choses, un détail. Et de détail en détail, on a fait un texte complet qu'on pourra titrer La négligence. Ce texte, il n'a qu'un seul titre, La négligence. Et la négligence n'a qu'une seule cause. Elle aura fait la vie. T'oublies qu'un jour tu vas partir. T'oublies que tu vas mourir. Raison pour laquelle le prophète Assalam, dans son invocation, Allahumma dhakkirna bil mawti kulli sa'a. C'est-à-dire cette conscience, chaque heure qu'on peut partir, c'est ce qui fait que le détail devient important. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Si je te dis à toi, mon frère, t'es là au premier rang, je te dis, tu sais quoi ? Demain, à 3h de l'après-midi, tu vas mourir. Tu rigoles, toi. Wallah, je te dis ça. Tu penses qu'entre maintenant et demain à 3h de l'après-midi, les petits détails de ta vie auront le même sens ? Pas du tout. Toutes les petites choses deviennent importantes. Tout ce qui est petit devient important. C'est, attention, il ne me reste que ça. Mais tu sais ce qui est le pire ? C'est que je ne sais même pas si tu es vivant ce soir à 7h du soir. Tu rigoles plus ? On ne sait pas. Et le raf, là, c'est ça, c'est de penser que tout passe et puis que c'est des petits détails. Bien, la langue, la maîtrise de la langue, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce détail qui doit devenir tellement important. C'est cette chose naturelle qui suppose la maîtrise. Et c'est une chose facile qui exige la conscience. Maîtriser sa langue. Alors, Ça nous amène à dire quoi? À se souvenir de ce que disait Ruth Dordain. Il avait une formule très simple pour te dire attention à ce que tu dis. Tu sais, tu as deux oreilles et une bouche. Ce n'est pas un scoop, mais la conséquence est très importante. Tout simplement, tu ferais bien avec tes deux oreilles d'écouter deux fois plus que tu ne parles. Tu as deux oreilles pour écouter plus que le fait de parler. La biologie ne confirme pas ces dires, mais la spiritualité les impose. Ça impose effectivement cette idée fondamentale que plus que cette langue, elle peut nous amener à dire naturellement, facilement, dans les détails des choses qui vont être notre perte, et le désordre dans la communauté, c'est d'apprendre à se taire. L'apprentissage de ce silence-là, c'est très très important. Vous l'avez avec Mariam, vous l'avez avec le personnage de Mariam, Marie. Quand elle retourne vers son peuple, et que là, ce qui lui est imposé, c'est un silence. Elle ne parle pas que par gestuelle, par symbolique. C'est-à-dire le jeûne de la parole comme purification de la langue. Alors comme on jeûne du fait de manger et de boire, dans la vie quotidienne, faut faire cet effort à des moments donnés du silence. Le silence est une des dimensions de la foi. Vous ne verrez aucune tradition spirituelle, aucune, et en islam c'est très important, qui ne vous enseigne pas à être silencieux avec Dieu. Et silencieux, ça ne veut pas dire ne pas parler. Ça peut vouloir dire, j'ai fermé ma bouche, j'ai reposé ma langue, et c'est mon cœur qui parle à Dieu. Le silence n'est pas une absence de dialogue, c'est un autre dialogue. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait l'expérience du désert, ou des Touaregs. Quand je sais, au nord du Mali, il y a une chose qui m'a vraiment... Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait pleurer, et ils ne m'avaient même pas parlé. C'est que, souvent ils sont assis comme ceci, vous allez vous asseoir à côté d'eux, vous êtes assis, et ils ne font pas dans la civilité. Alors nous, on connaît ces civilités, « Salam alaikum, kayfa al-hal ?» Oui, « Alhamdulillah, al-hal, Et enfin, on ne sait même pas au fond si au bout du compte il va bien, le frère. Parce que ce sont des formules que l'on a. Eh bien là, c'est très sobre, il n'y a pas beaucoup de mots. Mais vous asseyez et ils ne vous disent rien. Ils ne vous disent rien. À un moment donné, je me suis retrouvé, vous êtes assis en plein désert. En plein désert. Ce n'est pas une table de café, c'est un désert. Et il est à côté de vous, il ne vous dit rien, il ne vous dit rien. Vous êtes tout à coup renvoyé à vous-même, vous êtes en train de regarder l'horizon. L'horizon, il vous parle du créateur de l'horizon. Le désert, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais ça dit énormément de choses sur Dieu. Vous savez, Michel Serres, un philosophe français, disait « Ceux qui regardent l'univers et qui ne croient pas en Dieu font acte de négligence. » Je peux vous dire, à des moments donnés, quand vous êtes dans le désert et vous comprenez toute l'atmosphère du Coran, bien à des moments donnés, il y a un silence comme ceci, il y a un horizon. Et moi, les choses que je me suis dites en voyant le désert, je dis « Mais quand tu vois le désert, ne pas croire en Dieu, c'est pas naturel. » Il y a quelque chose comme ça, un horizon comme ceci qui... Alors, il est à côté de vous le frère, il est à côté de vous le frère en humanité, parce que tous ne sont pas musulmans, et ils se taisent, et ils sont à côté de vous, ils vous poussent à communiquer avec l'univers, à communiquer avec le créateur de l'univers, et à communiquer avec eux, vous n'avez pas dit un mot, vous n'avez rien dit. Mais vous parlez tout le temps. Mais de cette parole qui est « Mon cœur te parle, ma bouche ne dit rien. » Puis vos vrais frères, vos vraies sœurs, en humanité ou en islam, ce sont ceux-là quand même. Des moments donnés, tu n'as rien dit, mais il a tout compris. C'est comme le prawas, c'est-à-dire ceux qui sont de l'élite, ceux qui ont les karamat. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de spiritualité en ce moment-là, donne quelque chose qui est el fokram ou el karamat, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à l'ordre naturel. Vous n'avez même pas besoin de parler. Personne ne vous regarde et puis elle a vu. Elle peut vous dire des choses qui en vous, vous n'avez même pas parlé. C'est comme si on vous voyait comme ceci. Des choses même qui viennent de l'extérieur, des choses qui sont le trouble. Comme celui, cet étudiant qui vient, qui dit « J'étais vers mon cher. » Il avait une vie extrêmement sobre, extrêmement, mais il voyait, il avait ses calomètres. Puis il vient vers lui, il n'a rien dit. Lui, il était troublé, il venait de sortir d'une affaire de famille, il était troublé, mais il n'avait rien dit. Il donnait cette impression-là. Et puis il prend la main, puis il lui met la main sur le cœur, comme ceci. Il vient à lui, il lui met la main sur le cœur, lui dit « Ils vont se réconcilier. » Ça, ce sont des dimensions de la foi. Mais ce niveau-là, c'est peut-être pas le nôtre. Mais le nôtre, c'est de vivre avec un peu de silence. En plein milieu de nos sociétés modernes, en France, posez-vous la question de savoir combien de place vous faites au silence dans votre vie, combien de place vous faites pour une autre façon de parler, de vous parler, des mots pour vous, d'entrer en communication avec moi-même devant Dieu. Je veux dire, je parle à personne, mais à lui. Et là, je vais vous dire une chose. On parlait tout à l'heure de la langue arabe. Un peu de langue arabe pour pouvoir lire ce que Dieu dit. Mais parler à Allah subhanahu wa ta'ala toutes les langues du monde, parce qu'Allah il a créé toutes ces langues-là. Vous parlez dans la langue qui est la vôtre, avec les sentiments qui sont les vôtres. Ces mots-là, ils ont du poids parce qu'ils sont en train d'éduquer votre cœur à maîtriser votre langue. Des fois, quand tu reposes ta bouche, ta langue, qui t'es avec toi-même, comme ceci, cette éducation-là, elle va te pousser à ne pas dire des choses vaines et des choses inutiles. Ça nous manque, ça. Nous sommes devenus une communauté de pipelettes, une communauté de juges. On parle beaucoup, on réagit beaucoup. Et ces petits moments comme ceci, où on se tait, où on parle sans parler, où on est avec Dieu sans que personne ne le voit si ce n'est lui, ça nous manque énormément. Il y en a certains dans leur maison, je veux dire, la télévision elle est illuminée en permanence. Il faut qu'il y ait un bruit de fond, sinon je suis perdu. Mais c'est vrai, ils laissent la télévision, ou alors ils ont la radio. Il n'y a jamais de silence. Jamais. Il y a des personnes au téléphone, quand ils parlent, quand tu te tais au téléphone, 15 secondes de silence et ils paniquent. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien. J'étais en train de te parler. Vous n'avez jamais remarqué? Le silence qui fait paniquer, c'est la preuve que la paix est absente. Un cœur en paix aime le silence. Un cœur troublé aime le bruit. Chaque fois que dans une radio FM, il y a un moment de silence, l'animateur vient pour s'excuser de l'erreur. Vous n'avez jamais remarqué? C'est tout le temps du bruit. Ça va à la suite. Il y a un moment de silence. Excusez-nous, il y a eu un problème. Je veux dire, c'est le monde à l'envers. On te distrait. Bien ça, pour pouvoir savoir ça, c'est vraiment le poids des mots dans votre vie. Mais le prophète, c'était ça aussi, cette capacité parfois de ne pas parler, de faire silence, de se reposer, de ne pas trop parler. C'est la première des dimensions. Et vous remarquerez que dans le hadith du prophète, il y a une chose qui est tout à fait intéressante. Parce qu'il y a une gradation comme ça. Il dit, « Emsik alayka lisanak, tiens ta langue. » Alors évidemment, c'est tiens ta langue quand tu dois parler, mais tiens ta langue aussi de parler, de ne pas trop parler, le sens du silence. Il n'y a pas d'être qui soit proche de Dieu qui n'expérimente pas le silence. Et posez-vous la question, encore une fois, vous savez, pour avoir du silence dans sa vie, il faut le gérer. Il faut gérer une activité qui va s'appeler quoi? Un moment de silence. Je gère l'activité que je fais pour manger, l'activité pour le travail, puis il y a un petit moment où il faut gérer le silence. Le mettre dans sa vie, en avoir la préoccupation. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui éduque le cœur et c'est ça qui va changer ce que tu dis. Eh bien, emsik alayka lisanak. Et que ta demeure te suffise, et pleure sur tes erreurs. Regardez la gradation. C'est comme si ça te renvoie à toi. Et puis c'est par l'espace que ta demeure te suffise. C'est comme si finalement la maîtrise de la langue fait en sorte que tu vas retrouver parmi les tiens, dans ta demeure, il y a des espaces comme ceux-ci qui doivent te suffire. Ceux qui parlent beaucoup ne sont jamais très bien à la maison. Ceux qui aiment parler comme ça, il faut que ça sorte, il faut que ça bouge. Et moins tu parles, plus la demeure te convient. Et ce n'est pas un hasard que le prophète a mis ça tout de suite après. Et quand ta demeure te convient et que tu es seul avec toi-même, tu vois tes erreurs face à face. Parce que le silence qui amène les larmes, c'est ce qui te purifie. Mais les paroles qui amènent la distraction, c'est ce qui t'enfonce. Il y en a qui pensent que plus ils parlent après une erreur, plus elle s'efface. Jamais. C'est moins tu parles, et plus tu pleures, plus elle s'efface. Et tu la regardes en face, tu ne l'évites pas. Vous pensiez que j'allais vous parler des mots. Non, c'est ça dont je parle. C'est ce travail-là, chacun d'entre nous, personnel. C'est ce à quoi il faut éduquer nos enfants. C'est ce à quoi il faut que nous nous éduquions, nous. Posez-vous la question, là, quand vous allez rentrer chez vous, la place de l'absence de mots dans ma vie, de l'absence de mots, de l'absence de ce silence-là, la place de ce silence. La deuxième des dimensions par rapport aux mots sur laquelle qu'il faut insister, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir parler. Et ce qu'il faut, c'est essayer de parler des choses essentielles. Et quelles sont les choses essentielles pour chacun d'entre nous? Les choses qui nous concernent. Et les choses qui nous concernent, c'est ce qui m'occupe moi, pas ce qui occupe mon voisin. J'aimerais bien que vous compreniez avec moi et que vous suiviez mon raisonnement. Je pars du silence où on s'éduque soi-même personnellement à une deuxième étape où le prophète Rasulullah sallam dit « Min husni islamin tarquhu ma la » De l'excellence de l'islam, du meilleur islam d'un individu, il y a le fait de ne pas s'occuper des affaires des autres, de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et ça, c'est une dimension très importante de la parole. Vous savez pourquoi on a beaucoup de problèmes dans la communauté? C'est qu'on est très préoccupé des affaires des autres. Ça nous intéresse. Ça, on est des champions. Tout nous intéresse des autres. C'est une communauté qui a produit des individus qui sont en train de coloniser les affaires des autres. La réalité, c'est ça. Pourquoi il y a des problèmes? C'est s'occuper des affaires des autres. Quand on est dans le silence, on comprend que finalement, à un moment donné, il faut mesurer ses mots. Ne t'occupe pas de mes affaires. Tu ne t'occupes de mes affaires que quand tu veux le bien, mais t'occuper des affaires par cette curiosité malsaine, par cette critique, par ce jugement. Oui, regardez bien comme je le mets en deuxième étape. Ne pas s'occuper des affaires des autres, c'est-à-dire vous n'avez aucune vocation à devenir le juge de l'autre. C'est-à-dire, tiens ta langue, occupe-toi de tes affaires, en fait. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Et il n'y en a pas un dans cette salle, pas une dans cette salle, personne, de quelque tradition qu'il soit. Tu vas vers lui, tu lui dis, attends, tu crois pas que tu as suffisamment d'affaires dont il faudrait que tu t'occupes, toi? Il y en a un qui peut dire, non, moi ça va très bien, toutes mes affaires sont placées. Aucun. On a tous des dossiers dans le cœur, on a intérêt à s'en occuper vite. Donc si on devait chacun s'occuper de nos affaires, on s'occuperait moins des affaires des autres. Donc il n'y a pas à faire 36 000 leçons. Vous n'avez pas besoin d'un moufti qui vienne vous ouvrir le cœur. Tu dis, t'as vu ce dossier là? Il n'est pas fini. Vous le savez très bien, le dossier qui n'est pas terminé. La paresse à la maison, la paresse dans la prière, les propos malséants, la façon de pouvoir même mentir à ceux qu'on aime le plus sur la terre. Il y en a ici qui sont dans cette salle aujourd'hui, là maintenant, et qui peuvent de leur langue mentir à ceux qu'ils aiment le plus sur la surface de la terre, leur mère ou leur père. Quand on est à ce niveau-là, tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. C'est ça qui est sidérant dans l'être humain. C'est que finalement, il y a une telle inconscience de soi et une telle conscience de l'autre que finalement, on n'arrive plus à atteindre la fraternité. Parce que plus tu es conscient de tes problèmes personnels à toi, tout ce que tu as à régler, moins tu as le temps de t'occuper des autres. Moins tu as le temps de t'occuper de les juger. Plus tu es juge des autres, moins tu t'habites. Et plus tu t'habites, moins tu juges les autres. Alors, cette dimension, écoutez bien ce hadith, de l'excellence de l'islam d'un individu, c'est de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Si vous venez maintenant à Surat al-Hujurat, quelque chose de très impressionnant dans la construction, il y a un lien entre le fait de ne pas s'occuper des affaires des autres et le fait de ne pas médire, qui apparemment, quand vous y pensez comme ça, c'est pas évident. Je m'occupe pas des affaires des autres, mais ça ne veut pas dire que je médie. Voilà tes gestes. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Oui, ne vous espionnez pas. C'est-à-dire, ne vous occupez pas des affaires des autres. Il faut savoir une chose. Il y en a parmi nous, ils peuvent faire du mal, vraiment du mal. Mais si publiquement ce mal n'est pas apparu, faut que vous sachiez qu'Allah les protège de votre regard. C'est une volonté divine de protéger le mal que certains font du regard des autres. Voilà, et que les uns ne médisent pas des autres. Ne vous espionnez pas au début. Et tout de suite, ne devenez pas médisants les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'il y a un lien ici évident entre la négligence que l'on a quand on ne pas s'occuper. C'est dès que tu t'occupes des affaires des autres que tu vas glisser vers le pire. Et le pire, c'est quoi? C'est-à-dire la médisance. Et la médisance, ça a deux faces. Ça a une face qui est de dire de quelqu'un une chose dans son dos qu'il n'aime pas. Ça, c'est la médisance. C'est vrai, mais il ne l'aime pas. C'est-à-dire, t'es nerveux. Puis moi, je suis ton frère. Regardez jusqu'à où ça va. Mais t'es vraiment nerveux. Je ne l'ai pas inventé, t'es nerveux. Mais toi, t'aimes pas ta nervosité, t'aimerais te maîtriser. Et moi, je vais vers le frère, tu sais, le frère Ahmad, là, il est nerveux. Ça, on est déjà dans la maîtrise. Ça veut dire que je dois maîtriser ma langue avec mon cœur en connaissant le cœur de mon frère, en sachant ce qu'il n'aime pas. Je sais mon cœur, mais je sais que lui, il n'aime pas ça. Donc je connais son cœur un peu et je ne dis pas ce que son cœur n'aime pas. Puis il y a la calomnie. La calomnie, c'est dire dans le dos de quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. Et ces deux dimensions-là, ça vient de notre langue. Si nous étions sincères les uns avec les autres, on saurait que nous nous donnons peu de silence, nous maîtrisons peu notre langue, nos demeures ne nous suffisent pas, nous sommes très espions les uns des autres, très curieux les uns des autres, nous nous occupons beaucoup des affaires des autres, et nous finissons par être très médisants. C'est la réalité de la communauté musulmane. Et pas ici dans une salle comme ça, c'est la réalité même, locale. C'est qu'il y en a, ils sont le travail social, tu sais, nous sommes des musulmans, il faut qu'on change la société, il faut qu'ils aient des... il faut que les gens voient, qu'ils disent, qu'ils... Et quand tu les regardes entre eux, ils sont tellement actifs qu'ils ne sont jamais silencieux. Ils sont tellement peu au centre d'eux-mêmes qu'ils finissent par s'occuper des affaires de toutes les autres, de tous les autres. Et ils sont médisants. Et la médisance, c'est pas uniquement d'être médisant avec les... Si on veut l'exemplarité, il faut aussi faire attention à la médisance avec les gens qui ne sont pas musulmans. C'est pas uniquement entre nous. Je dirais, à un moment donné, quand vous vivez avec des gens, il faut aussi savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et on ne peut pas systématiquement les critiquer parce qu'ils n'aiment pas, en disant, oui, mais tu sais, c'est vrai, je l'ai dit dans son dos. Mais au fond, c'est un kafir. Hein? Il est kafir, donc je le dis. Comme si nous avions cela en islam. Comme si on faisait des distinctions entre les gens, puis un kafir, on dit ce qu'on veut. Un kafir, quelqu'un qui ne reconnaît pas le dernier des prophètes, et qui ne reconnaît pas Dieu, qu'est-ce que vous voulez pour lui? Vous voulez l'entretenir dans vos propres mots, ou vous voulez devenir un modèle de votre bien? Qu'est-ce qu'on veut pour les gens? À partir d'un certain moment, il faut se poser la question de même la façon dont on parle des gens, même la façon dont certains utilisent le mot kafir comme une insulte. Un kafir. Là, tu prends la personne, tu lui dis assieds-toi. On joue pas avec ce mot. D'abord, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On dit pas ces choses-là. Et le kouf, ça a un sens, c'est normatif, c'est scientifique. C'est pas un jeu, c'est pas une insulte. T'es pas en train de dire à quelqu'un imbécile. T'es en train de dire à quelqu'un kafir. Et kafir, c'est un mot très lourd. Et les mots lourds, eh bien, dispense-toi de les dire. Moi, si j'ai un conseil à dire aux gens, c'est méfiez-vous de ce mot, parce qu'il est extrêmement lourd quand vous l'avez mis sur le front de quelqu'un. C'est très lourd. Vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans la communauté comme vis-à-vis de ceux qui sont dans la communauté. Ceux qui font takfir, là. Chaque fois qu'ils ne sont pas contents avec quelque chose que tu dis, kafir. Tout de suite, kafir. Ils voient un... Et puis la citation même, même avec notre bouche, dire des choses avec notre bouche, et de ce point de vue-là, devenir véritablement... Mais même dans la citation du Coran, même dans la citation du Coran, ne pas faire attention à ce qu'on est en train de dire. On se dispute avec quelqu'un qui est de tradition chrétienne ou de tradition juive. Et alors, on pense qu'on a compris le Coran. Avec notre bouche, qu'est-ce qu'on dit? Comme pour assurer qu'on sait. L'an tarda anka al-yahoud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Je le savais. On peut comme ça prendre des versets du Coran puis les jeter à la tête des gens ou s'assurer que c'est peut-être toi qui as fait une erreur dans ta façon dont tu t'es exprimé avec les gens d'une autre tradition. C'est peut-être toi qui ne sais pas parler. C'est peut-être toi. Le Coran, il vient pas protéger tes erreurs, il vient te révéler la vérité. Faut pas utiliser le Coran avec ta bouche n'importe comment. Il y en a qui citent avec leur bouche le Coran dans des contextes qui sont totalement inappropriés. Mais c'est juste pour se donner une assurance. Puisque j'ai cité le Coran, je suis dans la vérité. Ben non, tu peux citer le Coran de vérité de façon mensongère. Tu peux. Et c'est ça le pire. C'est dire les plus belles paroles du monde de la façon la plus mauvaise. Ça, il faut qu'on s'en rende compte quand même. Il faut qu'on se rende compte que même notre langue, elle en vient maintenant à utiliser des hadiths d'une façon terrible. Ce n'est pas des hadiths pour te réveiller, c'est des hadiths pour t'exécuter. Il y en a qui citent le Coran et qui citent des hadiths. C'est comme une arme, ils te prennent et ils te ciblent. Le but, c'est de te détruire. Ce n'est pas de t'éduquer. Et à cela, il faut dire un petit moment de silence, un petit moment d'éducation. Nos sources ne sont pas ceux avec quoi on exécute les gens. C'est des lumières avec lesquelles on montre un chemin, on guide, on n'exécute pas. C'est toute la disposition du cœur qui change. Donc vous voyez, on va même là maintenant comprendre que dans notre façon de citer le Coran, dans notre façon de parler, il va falloir faire très très attention à la façon dont on dit les choses, d'éviter effectivement cette médisance. Et vous savez, il y a des signes. Le prophète, il avait dit, hey, tout le monde a fait talent. Il a dit, les signes de l'hypocrite sont trois. Et c'est-à-dire, quand il parle, il ment. Vous sentez, quand il parle, il ment. Et la tuminachan, c'est-à-dire que quand on lui donne quelque chose, il le trahit. C'est le deuxième, c'est-à-dire quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Mais vous promettez avec quoi? Quand vous parlez avec quoi? Avec la langue. Quand vous promettez, c'est avec quoi? Avec la langue. Quand on vous donne un bien pour le garder, vous allez le garder et dire que vous allez le garder avec quoi? Avec la langue. Les trois signes de l'hypocrite, c'est effectivement sa langue. Il y a une quatrième chose qui est surprenante dans un autre hadith, qui est une quatrième. Quand il se dispute avec quelqu'un, il explose. Vous n'avez jamais remarqué? Enfin, vous savez, peut-être même vous, que vous êtes comme ça. Quand on commence à parler avec vous, mashallah, discussion, on a l'impression que vous maîtrisez la situation, self-control. Le ton monte, et les mots montent. Et à un moment donné, il y en a certains, quand ils se disputent, la langue alors, plus rien ne la tient. Tout y passe. Quand il se dispute avec quelqu'un, il explose et il dit tout et n'importe quoi. Celui qui explose et qui dit tout et n'importe quoi quand il s'énerve, c'est la preuve qu'en temps de calme, il ne maîtrise pas suffisamment son cœur. Il y a des signes dans l'excès qui vous montrent comment vous êtes dans la normalité. Et ça, il faut se poser des questions. Chacun d'entre nous le sait, à des moments donnés, quand vous vous énervez, vous dites des choses qui vont plus loin que votre pensée. Et le prophète Rasoul Salam nous a dit 4 signes de l'hypocrite. En d'autres termes, 100% d'entre nous dans cette salle ont en tout cas 1, 2, 3 ou 4 de ces signes. Je dirais même que 89,9% d'entre nous ont les 4. Combien de fois a-t-on promis et on n'a pas tenu? On a parlé et on a menti? On a reçu un dépôt puis on a peut-être un peu trahi? Celui-ci, c'est peut-être les gens qui nous connaissent tellement qu'ils ne nous font plus le dépôt. Et puis, quand on s'énerve, on dit n'importe quoi. Eh bien, ça, c'est un travail. Et de quoi suis-je en train de parler depuis le début de cet exposé? De quoi suis-je en train de parler? Finalement, tout ce travail de maîtrise, tout ça, tout ce dont je suis en train de parler, tout le contraire de ça, c'est l'oubli de soi. C'est l'oubli dans l'activité, c'est l'oubli du silence, c'est l'oubli de la maîtrise, tout ça, c'est l'oubli. Mais tout le reste de la maîtrise, dans le silence, de retenir sa langue, de faire attention. Tout ça, c'est la prière. Il ne faut pas que nous disions nos prières, c'est uniquement 5 fois par jour. J'aimerais vous dire une chose. Il y en a certains d'entre vous, on va vers eux, et on leur dit, est-ce que tu pries? Alors pour nous, est-ce que tu pries? C'est-à-dire, est-ce que tu pries 5 fois par jour? Alors eux, s'ils prient, ils disent, oui, je prie 5 fois par jour. Et s'ils ne prient pas 5 fois par jour, ils disent, non, je ne prie pas 5 fois par jour. J'aimerais vous proposer de commencer les choses un peu différemment, très positivement, exactement comme le prophète Rasulullah nous a enseigné. Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Je rappelle toujours aux gens, à nos frères et nos sœurs, que ce morceau de hadith du prophète est souvent mal compris. Qu'est-ce que ça veut dire faciliter, ne rendez pas les choses difficiles? Ça veut dire par exemple que quand il y a 5 prières par jour, faciliter, je viens vers vous, j'ai facilité les choses, aujourd'hui il n'y en a plus que 4. Non, c'est pas ça. Faciliter, c'est il y en a 5. C'est indiscutable, mais je vais observer plus vos intentions pour y aller, pour faciliter la route vers la prescription. Faciliter, c'est faciliter le chemin qui va vers. Ce n'est pas enlever la prescription. Vous êtes d'accord? Donc, c'est le jeûne est prescrit. Kutiba alaykum as-siyam. Il faut jeûner. Mais parfois, pour y aller, il faut des étapes. Mais pour comprendre la facilité des étapes ou le fait de faciliter ces étapes, il faut s'occuper des intentions des gens. Comment les gens y vont? Donc, dès que tu as une bonne intention, tu es déjà sur la route, n'est-ce pas? Tu as facilité. Tu es peut-être pas encore arrivé aux 5 prières, mais ton intention s'est tournée vers la prière et tu as peut-être déjà commencé. Alhamdoulilah, tu es en voie vers. J'ai facilité, les 5 prières sont les 5 prières, mais ton visage a commencé à se tourner, je facilite le chemin, mais je n'enlève pas l'exigence au bout du chemin. Donc, faciliter, yassiru, ça veut dire tournez-vous vers les intentions, facilitez les voies qui mènent à la prescription. Donc, attentif aux intentions, mais ferme quant aux prescriptions. C'est ça. Yassiru wa la tu'assiru. C'est pas d'enlever des prescriptions. Eh bien, quelqu'un a dit, à qui on dit tu pries pas, et qui dit moi je prie pas, attention, attention, ou je ne pratique pas ma religion. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes peut-être pas en train de jeûner. Alhamdoulilah, j'espère que la majorité d'entre les musulmans qui sont dans cette salle jeûnent. Ou vous n'êtes peut-être pas en train de prier les 5 fois par jour, ou alors vous priez 5 fois par jour pendant que vous jeûnez. Il y en a certains comme ça, ils se sont fait des prescriptions personnelles 5 fois par jour pendant le ramadan, puis ensuite, alhamdoulilah, j'attends le prochain. Ça n'existe dans aucun livre de fiqh, et ce n'est pas islamique. Mais bon, c'est déjà bien. L'intention, elle va dans le bon sens. L'école du ramadan, c'est de prier, puis de continuer par la suite. Donc l'intention, elle se tourne vers le bien. Eh bien, quand vous dites « je ne pratique pas », faites très très attention. Il y en a certains, par ce travail-là, maîtriser sa langue, ne pas dire du mal des gens, ne pas s'occuper de ce qui ne nous concerne pas, de ne pas tomber dans la médisance ou dans la calomnie, de maîtriser, de faire silence, vous êtes déjà dans la pratique. Et si vous dites « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », vous êtes déjà en train de prier. Ne pensez pas qu'il y ait une rupture entre les deux. Le problème qu'on a avec nous, c'est « je pratique dès que j'ai fait les 5 ». Non, dès que tu commences à faire, d'avoir une attitude morale, tu es déjà dans la pratique. Ce qu'on veut, c'est que cette pratique, elle te mène intentionnellement vers les prescriptions. C'est que tu viennes à ces prescriptions. Donc attention de ne pas tout vous enlever. Il y en a certains, ils pensent que, en plus, ceux qui prient 5 fois, ils savent bien que la route est longue. N'est-ce pas? Tu pries 5 fois, puis tu dis, mais encore, je prie 5 fois, mais pas bien. Des fois, tu as fini la prière, tu te dis, attends, j'ai dit 3, 4, qu'est-ce que j'ai même dit? Qu'est-ce qu'elle se voit que j'ai dit déjà? Hein? Donc quand on prie, on sait bien que la route, elle est longue. Et au plus haut niveau de la spiritualité, tous les mystiques, tous les soufis de la tradition vraie de l'islam, pas les, le soufisme farfelu ou New Look, le vrai soufisme de la tradition musulmane, ils nous disent une chose, plus tu es près de Dieu, plus tu sais que tu es loin. Ça ne correspond pas à la raison, ça. Et c'est la spiritualité. Plus tu t'approches, plus tu sens que tu es loin. Donc, quand on a commencé à prier, on sait qu'on doit continuer. Mais quand on n'a pas commencé, il ne faut pas dire qu'on n'a rien fait. Si déjà vous maîtrisez votre langue, si déjà vous avez une attitude morale, si déjà vous faites silence, vous êtes déjà en train, vous êtes en route. Alhamdulillah. Ne pensez pas que vous n'avez pas commencé. Il y en a certains, ils sont toujours en train de voir ce qu'il leur manque. Allah SWT nous dit, en islam, on n'est pas du tout dans la logique de la culpabilité. On est dans la logique de la responsabilité, de la paix. Tumaknina, c'est ça l'islam. L'islam, c'est pas d'entretenir des culpabilités comme ça, il y a toujours mal. Non, la paix, ouvre-toi, ouvre ton cœur, tu avances. Alhamdulillah, dis Alhamdulillah, ala barakatillah, tout ça c'est bon. Même si tu pries pas encore, c'est bon, tu retiens ta langue, tu parles pas, tu fais attention, et à un moment donné, ça ne peut que venir. Parce que tu peux pas retenir ta langue sans à un moment donné sentir qu'il te manque quelque chose d'autre. Plus tu avances, plus la lumière vient. Donc il faut comprendre ça, faut pas être dans une attitude. Moi je vois beaucoup de frères et de sœurs, ils sont sinistrés de la foi. C'est tout le temps en train de dire, je fais pas ça, je fais pas ça, blablabla. Mais attends, arrête-toi. C'est pas une course contre la montre. C'est pas un décompte de toutes tes erreurs. N'oubliez jamais que vous avez sur votre épaule droite qui écrit ce que vous faites de bien. Parce qu'il y en a qui ont l'obsession de la gauche. C'est tout le temps en train de dire, oulala, mon frère. Dans la droite, il écrit le bien, tu fais plein de choses bien, tu es déjà en route. Il faut positiver ça, pas avoir cette obsession que tout va mal. Et donc on est déjà dans cette route-là. Et ça commence par la langue, ça commence par des petites choses. Et j'aimerais vous dire une chose, il y en a qui prient 5 fois par jour et qui ont la langue bien pendue. Il y en a qui prient pas du tout et qui sont très discrets. Rien n'est définitivement gagné. Il faut toujours continuer. C'est ça le djihad et le nefs. C'est ce travail. C'est jamais gagné. Et quand vous savez cela, vous avez fini de prier 5 fois, vous avez fini de prier à la mosquée, vous sortez de la mosquée, puis vous voyez des gens à côté de vous qui n'ont peut-être pas fait la prière, de ces jeunes qui peuvent être dans les cités, faites très très attention. Parce que jeunes ou moins jeunes, il y en a, et même des femmes et des hommes qui ne prient pas, plus âgés, ils sont peut-être parfois plus discrets avec leur langue que vous. Ils parlent moins dans le dos que vous. Il y en a. Ils sont loin de la pratique, ils ont déjà commencé à pratiquer, ils le savent même pas. Et il y en a qui sont dans la pratique et qui contredisent leur pratique par tout ce qu'ils disent. Dès que vous êtes dans cette logique-là, vous commencez à vous taire un peu sur les gens. Vous savez bien que la route est longue. Et puis, à parler aux gens de la meilleure des façons, et on terminera là-dessus. Vous savez que Pharaon a dit, Ana rabbukum al-a'la. Regardez, l'arrogance, je suis votre Dieu le Très-Haut. Et Allah Ta'ala envoie Moussa wa Haroun, alayhi salam. Il envoie son Moïse et son frère. Et qu'est-ce qu'il leur dit de lui dire ? وَقُلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dis-lui, dites-lui tous deux des paroles douces. Il est arrogant et il dit, moi je suis Dieu. Quand vous avez en face de vous l'arrogance, l'attitude naturelle, c'est de répondre avec la fermeté, c'est de répondre avec des paroles douces. C'est-à-dire, c'est cela que nous sommes venus faire sur la terre. Nous sommes venus sur la terre pour répandre de la douceur, même dans l'exigence. C'est ça le secret du prophète, as-salam. Il est venu dire des choses très exigeantes. C'est pas facile de dire à une communauté, vous priez 5 fois par jour. C'est pas facile de faire comprendre à une communauté pendant le mois du Ramadan, vous allez ajouter de la prière le soir. Il l'a fait pendant quelques fois, puis ensuite il l'a fait à la maison pour pas que ça devienne une obligation pour la communauté. Il l'a fait lui tout seul après. Et puis, tahajjud. C'est pas facile, il est pas venu avec des choses faciles. Cet homme qui n'est pas venu avec des choses faciles a été aimé de tous ceux qui l'entouraient, il ne voulait pas le quitter. Quel est le secret ? La délicatesse, la douceur. Quelque chose qui est doux. Il dit les choses graves avec douceur, la façon de parler. Il n'a pas besoin de s'énerver. Donc, positivement et avec beaucoup de douceur. Si seulement on pouvait, dans cette communauté, porter un tout petit peu plus de douceur les uns à l'égard des autres. Faire silence, s'occuper de ses affaires, parler avec douceur, et puis positivement. Dès que vous êtes dans ces 4 dimensions-là, et qu'au commencement vous dites « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », vous êtes passé de la parole qui peut oublier à la parole qui vous permet de prier. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être de ceux qui parlent en priant, et qui parlent pour prier, et qui parlent comme ceux qui prient, et non pas de ceux qui parlent comme ils oublient. Un beau problème, un instant, le barbeau à la confession.
Souvent, tu parles de.
Bien sûr.
De revenir à une spiritualité profonde, d'éduquer son cœur. En tout cas, ça, tu nous rappelles toujours à ce qui est essentiel. Souvent, même dans les questions d'actualité et tout ça. Et même récemment, j'ai écouté une passage, tu disais que la spiritualité, c'est la gestion intellectuelle des émotions. Concrètement, tout à l'heure, quand on entend ce discours et tout ça, et que l'on revient à notre train-train quotidien, comment concrètement traduire ce retour à Dieu, à cet essentiel, à ce, au côté du cœur, etc.
Mais il me semblait que, bon, on peut être encore plus précis, il me semblait que j'y avais mis en évidence pendant l'exposé un certain nombre de choses qui sont des voies pour cela. La première des choses, comment mettre en pratique tout ce que je suis en train de traduire. Eh bien, c'est effectivement, fondamentalement, un exercice, une éducation personnelle et quotidienne. Alors, la tradition musulmane, elle nous donne plusieurs façons de le faire. La première des choses, c'est effectivement les prescriptions. L'islam est fondé sur 5 piliers. Ces piliers-là, c'est ce qui tient la maison de notre quotidien. Que ce soit la gestion de la prière, comment on prie, la gestion de notre argent, la gestion de notre corps, là, en jeûnant, tout ça, ce sont des moyens pour parvenir déjà à commencer ce travail-là. Et ça, il faut les faire chaque fois en essayant de s'améliorer. Il ne suffit pas de les faire. Vous savez, on n'a pas parlé de cela parce que ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais le prophète, as-salam, a dit, certains parmi ceux qui jeûnent ne bénéficieront quant à leur jeûne que du fait de s'être privés de manger et de boire, c'est tout. Parce qu'ils ne font que ça, il n'y a aucune intention. Donc, le renouvellement de nos intentions, le renouvellement de la conscience de ce qu'on fait est extrêmement important. Alors c'est vrai pendant le jeûne, pendant ce mois du jeûne, c'est vrai pendant chaque fois qu'on prie, il faut faire attention. La prière, elle doit rompre avec ce que l'on fait d'habitude pendant la journée. C'est-à-dire c'est un moment de rupture où on essaye de se concentrer pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça demande vraiment un travail de concentration, il faut se donner les moyens. Alors ça, ce sont les piliers, c'est ce qui tient la maison. Maintenant, dans la maison, il faut l'aménager. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous doit se connaître et savoir ce dont il a besoin. Ce n'est pas une nécessité pour tout le monde de faire des tahajjud toutes les nuits, de prier pendant la nuit. Il faut de temps en temps prier pendant la nuit, ça c'est une évidence pour nous, on le sait. Mais ce qu'il faut, c'est que chacun développe quotidiennement une certaine façon d'être avec lui-même. Ça veut dire de se donner du temps, de gérer bien sa journée. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous sont très négligents dans la gestion de leur journée. D'ailleurs, ils se lèvent le matin très très vite, ils se préparent pour aller au travail ou à l'université ou que sais-je, et puis ils reviennent, ils mangent, et puis ils ne se donnent pas de temps pour s'occuper d'eux-mêmes, ils ne se donnent pas de temps pour leur spiritualité. Et encore une fois, se donner du temps le matin, se donner du temps à midi ou le soir, c'est aussi ouvrir le jour d'une façon totalement nouvelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez, on va utiliser un mot informatique, connecter votre spiritualité à votre vie quotidienne. Il ne faut pas vivre comme un étudiant ou une étudiante, quelqu'un qui travaille dans n'importe quel domaine, ou quelqu'un qui va à l'école. Il ne faut pas que ça soit « je vais à l'école, puis j'ai une spiritualité après l'école ». Il faut la mettre en application dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Je veux dire, on est en train de dire tout le temps « oui, l'islam, ça concerne tous les domaines de notre vie ». Oui, mais comment ? Comment ça concerne ? C'est pas simplement en disant « bon, ben, parce qu'on prie 5 fois par jour ». Il y en a, je suis désolé, ils prient 5 fois par jour, mais entre 2 prières, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu, on ne le voit pas dans leur vie, dans leur façon d'être, il y a un oubli. Et c'est comment que l'on sait que Dieu fait partie ? C'est en ayant conscience, c'est en ayant une conscience, c'est-à-dire, attention, dans ma façon de parler, dans ma façon de servir les gens. Il n'y a qu'une seule chose qui va changer la situation des musulmans dans le monde, au-delà de ce souci personnel de spiritualité. Il n'y a qu'une seule chose, n'y voyez. Je veux dire, on pourra vous donner des millions, on pourra vous donner tout ce que vous voulez, de richesses, voire des armes. Ça ne sauvera pas cette communauté musulmane qu'une seule chose. C'est une spiritualité en action, en vie quotidienne. C'est la spiritualité dans l'exemplarité. C'est une façon de tenir sa langue. C'est une façon de servir les gens. C'est une façon d'être. Quand on vous voit, on se dit, ça me donne envie d'être comme elle ou ça me donne envie d'être comme lui. C'est ça qui va changer. Je veux dire, vous pensez maintenant que la bataille médiatique est en train de se passer dans ce pays, on va la gagner, média contre média. Il y en a qui viennent vers moi, ils disent, il faudrait qu'on ait un média islamique. Mais arrêtez de rêver. Vous êtes un média. Vous êtes la télévision quotidienne des gens. Il y a une télévision qu'ils ont dans le salon, et puis il y a une représentation concrète de la réalité que vous êtes là où vous vivez. Donc c'est ça qu'il faut être aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut la vivre, mais encore une fois, il faut après doucher la garantie. Si vous ne l'avez pas, vous ne le donnerez pas. Donc si vous n'avez pas de paix intérieure, vous ne la donnerez pas. Il faut arrêter de faire semblant. Oui, l'islam, c'est la paix, c'est la soumission. Bon, tout ça, ce sont des mots. Où ils sont, ces gens, dans leur quotidien, qui sont comme ça ? Quand on les voit, on a envie de leur ressembler. Quand on voit, ils font la différence. Il y en a certains, tu les vois dans la rue, ils viennent de sortir de la mosquée, pas un sourire, pas un mot aimable. Tu te demandes, mais pourquoi je veux vouloir te ressembler ? J'ai aucune envie de te ressembler. Tu me regardes avec les yeux de la froideur, tu me parles avec l'expression de l'agressivité, tu me bouscules. Je veux dire, j'étais dans l'avion pour arriver à Paris l'autre jour, le frère qui était à côté, il y avait un frère que je ne connaissais pas qui était à côté de moi, il était en train de jeûner, donc il me dit « je jeûne », on était au début. Et puis il commence à prendre son téléphone portable, puis il téléphone, avant que l'avion parte. Vous savez que ça, c'est absolument interdit. Et l'hôtesse de l'air, elle vient vers lui, puis au début, elle lui dit, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pourriez pas éteindre votre portable ? Il dit, oui. Mais il continue. Et il continue longtemps. Alors, lui, elle s'énerve. Et puis lui, il s'énerve. Il dit, oui, j'ai fini, il faut que je dise quelque chose. Et puis, il commence à élever le ton. Puis, elle part énervée. Et puis, lui, avec un regard, il dit, c'est quoi ça ? T'es en train de jeûner d'abord. Éteins ce portable ! Mais moi, je peux vous dire une chose, je suis à côté de lui, hein. Je n'ai aucune envie de lui ressembler. Ça ne me donne pas du tout envie. Et si c'est ça l'image de l'islam, eh bien, s'il vous plaît, circulez, il n'y a rien à voir chez nous. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il faut se poser la question de savoir. Alors, quand on est dans cette dimension-là, la spiritualité, c'est de savoir, c'est ça l'engagement. Alors, si on n'a pas une spiritualité vécue au quotidien, qui se voit, on ne pourra pas le montrer, mais comment la vivre au quotidien ? Ben, c'est justement ça. Connaître ces piliers fondamentaux dont on a parlé, puis avoir une discipline personnelle de vie, se maîtriser, faire un travail sur soi, sur sa langue, sur ce petit élément de notre physiologie et qui est facile, naturel et un détail, et qui ne doit plus l'être. Ça, ce sont des choses importantes. Servir les gens, être aimable avec les gens. Je crois qu'à partir d'un certain moment, c'est aussi ça. C'est ça qu'il faut connecter. Le souci des gens. L'empathie, vous savez ce que c'est l'empathie ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, vous voyez quelqu'un qui a un problème, puis L'espace de quelques minutes, vous vous mettez à sa place. Se mettre à la place des gens. Vous connaissez cette histoire ? Vous compreniez bien comment le prophète A.S. faisait ces choses-là naturellement, alors que maintenant la psychologie moderne nous explique comment il faut les comprendre. C'est dans un métro de New York. Et puis, c'est vers 11h le soir, et il y a quelques personnes dans le métro, et puis tout à coup, il y a un homme qui rentre avec deux enfants. Et il s'assied. Et les gens étaient tranquillement en train de lire. Et les deux enfants, ils vous mettent dans le wagon un bruit, et ça part dans tous les sacrés. Alors tout le monde se retient, on lit. Il y en a un, il me dit, j'en ai marre. Il va vers lui, il me dit, écoutez-moi, monsieur. Vous pouvez pas prendre vos deux enfants là et les calmer là parce que ça commence vraiment à m'énerver. Je peux pas lire. Vous pouvez pas prendre vos deux enfants? Et l'autre il le regarde et il dit, bah, ça tombe bien, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il dit, ces deux enfants là, ils viennent de perdre leur maman et je sais pas quoi faire. Et l'autre, vous voyez ce moment, il passe de l'autre côté puis se met à la place de l'autre. Puis se met à la place des enfants. Et le monde change. Oui. Eh bien, le prophète A.S. a des degrés divers, il n'a pas arrêté de faire ça. Celui qui est entré dans la mosquée pour faire ses besoins, il dit chut, 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 mettez les cellules. Il se met à sa place. Parce que si à ce moment-là, tu le tapes, tu le perds. C'est aussi simple que ça. Mais ça, il faut maîtriser son cœur avant l'insulte. Parce que certains, ils auraient pris l'enfant, viens ici que je te file une tac. Regardez, c'est ça l'empathie. Ça, c'est quoi? C'est la gestion intellectuelle de ses émotions. C'est ça la spiritualité. C'est savoir ça aussi. Si simplement nous pouvions être 5% de ça dans notre vie quotidienne, ça change tout. Vous n'avez même pas besoin d'écrire de livres. Parce qu'en fait, vous savez une chose, c'est qu'on peut écrire 100 livres, mais là, dans cette salle, pour les gens qui vivent avec vous, il y a 600 livres. Chacun d'entre nous est un livre dans lequel les gens lisent. Essayez, tout à l'heure vous sortez, vous dites, bah, je suis un livre. Qu'est-ce qu'on y lit?
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim. Al-haqqah. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.